Votre évolution pour commencer. Le symbole de Saint Athanase, puisque quand même c'est la semaine sainte, et il faut qu'on retrouve la puissance de Dieu par la foi. Le symbole de Saint Athanase, c'est un des symboles par lesquels les chrétiens exprimaient leur foi théologale. Et je voudrais vous le lire, n'est-ce pas ? Vous le trouverez dans vos bibliothèques, la bibliothèque de vos grands-mères, qui a gardé le missel fédère, vous savez, le missel, etc., le missel, toutes les sortes de missel où on suivait la messe, hein, c'était absolument, c'était, on a, oui, oui, tout à fait, souvent les symboles y sont, n'est-ce pas, quiconque veut être sauvé, doit avant toute chose embrasser et étreindre la foi catholique. Quiconque veut être sauvé doit, avant toute chose, embrasser et étreindre la foi catholique. Et quiconque ne la conservera pas totalement et inviolablement périra infailliblement pour l'éternité. La foi catholique consiste à adorer un seul Dieu en trois personnes, et trois personnes en un seul Dieu, sans confondre les personnes, ni séparer la substance. La foi catholique, je répète, consiste à adorer un seul Dieu en trois personnes, et trois personnes en un seul Dieu, sans confondre les personnes, ni séparer la substance. Autre est la personne du Père, autre est la personne du Verbe, autre est celle du Saint-Esprit. Mais la divinité du Père et du Fils et du Saint-Esprit est une. Leur gloire égale leur majesté co-éternelle. Tel est le Père, tel est le Fils, tel est le Saint-Esprit. Deux points. Le Père est incréé. Le Fils est incréé. Le Saint-Esprit est incréé. Le Père est immense. Le Fils est immense. Le Saint-Esprit est immense. Le Père est éternel. Le Fils est éternel. L'Esprit Saint est éternel. Et néanmoins, ils ne sont pas trois éternels, mais un seul éternel. Comme aussi, ce ne sont pas trois incréés, ni trois immenses, mais un seul incréé et un seul immense. De même, le Père est tout-puissant, le Fils est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant. Daignez, Seigneur, nous conserver aujourd'hui purs et sans péché. Ayez pitié de nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Cependant, ce ne sont pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et néanmoins, ce ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, et l'Esprit Saint est Seigneur, et néanmoins ce ne sont pas trois Seigneurs, mais un seul Seigneur. Et de même que la vérité chrétienne nous oblige à reconnaître et à confesser que chacune des trois personnes est Dieu et Seigneur, ainsi la religion catholique nous interdit-elle de dire trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été ni fait, ni créé, ni engendré d'aucun autre. Le Fils n'a été ni fait, ni créé, ni engendré d'aucun autre. Le Saint-Esprit n'a été ni fait, ni créé, ni engendré, mais il procède du Père et du Fils. Je vois que personne ne m'a arrêté.
On dit que le Fils est engendré.
C'est bien. Voilà, c'est un piège. Je répète alors. Le Père n'a été ni fait, ni créé, ni engendré d'aucun autre. Le Fils n'a été ni fait, ni créé, mais engendré du Père seul. Et le Saint-Esprit n'a été ni fait, ni créé, ni engendré, mais il procède. Il faudra toujours se rappeler ça. Mais il procède. Et il procède du Père et du Fils. Il n'y a donc qu'un seul Père et nos trois Pères, un Fils et nos trois Fils, un Esprit Saint et non pas trois Esprits Saints. Et dans cette Trinité, il n'y a ni plus ancien, ni moins ancien, ni plus grand, ni moins grand, mais les trois personnes sont coéternelles et égales entre elles. De sorte que en tout, comme il a été dit, on doit adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Quiconque donc veut être sauvé doit avoir ses sentiments et cette croyance dans la Trinité. Mais il est nécessaire pour son salut éternel qu'il ait encore une foi exacte de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la pureté de la foi consiste à croire et à confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu, étant engendré de la substance du Père avant tous les temps. Et il est homme, étant né dans le temps de la substance de sa mère. De la substance de sa mère. Dieu parfait et homme parfait, ayant une âme raisonnable et une chair humaine, égal au Père selon la divinité et moindre que le Père selon l'humanité. Et quoi qu'il soit Dieu et homme, il n'est pas néanmoins deux personnes, mais un seul Jésus-Christ. Il est un, non que la divinité ait été changée en l'humanité, mais parce que Dieu a pris l'humanité et l'a unie à sa divinité. Un, enfin, non par confusion de nature, mais par unité de personne. De même que l'âme raisonnable et la chair font un seul homme. De même Dieu et l'homme est un seul Jésus-Christ. Qui a souffert la mort pour notre salut, est descendu aux enfers et le troisième jour est ressuscité d'entre les morts. Et monté aux cieux, est assis à la droite. De Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts, à l'avènement duquel tous les hommes ressusciteront avec leur corps et rendront compte de tous leurs actes. Et ceux qui auront fait bien recevront la vie éternelle, mais ceux qui auront fait mal seront précipités dans les flammes éternelles. Voilà quelle est la foi catholique. Et quiconque ne la gardera pas fidèlement et constamment ne pourra pas être sauvé. Amen. Saint Athanase. Alors, souvent les gens me demandent, n'est-ce pas? Hein? On termine par le gloire au Père, au Fils. Au Saint. Oh, ben, c'est une période d'éternité. Le Saint Athanase, ça doit être, à mon avis, je sais pas moi, quand on a commencé, oui, c'est après les Ariens, tout ça, ça doit être au 7e, quelque chose comme ça, ouais. Certainement. Mais je ne sais pas exactement. Je n'ai pas ma main coupée. Ça doit être marqué dans le Dumège quelque part, ça. Bon. Alors, quand souvent on me demande, oh mon père, comment est-ce qu'on fait pour faire oraison? Ah, vous permettez. Pour faire oraison, il faut s'arracher à l'esprit du monde. L'esprit du monde ne dira jamais ça. Jamais. C'est insupportable pour le démon d'entendre ça. Insupportable. Et c'est insupportable à notre orgueil, à notre petit raisonnement. Insupportable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tatanas. Ben, j'espère qu'il est en enfer. Voilà ce qu'on va penser, n'est-ce pas? On va leur dire, peut-être aussi intolérant. Mais enfin, la foi, c'est pas une opinion, c'est pas une idée, c'est pas une interprétation humaine. Non, non, c'est une révélation dans la compréhension surnaturelle de Dieu sur les mondes. Et tout de même, c'est tout à fait autre chose. Il n'y a ni tolérance, ni intolérance là-dedans. Mais bien évident que ce qui est dit ici est parfaitement exact. Et c'est la foi parfaitement immaculée, fidèle et jusqu'au bout qui nous permet d'être sauvés. Ça, c'est évident. Eh bien, on pose souvent la question, comment est-ce qu'on fait pour faire oraison? Comment est-ce qu'on fait pour faire oraison et s'arracher, j'allais dire, et puis rentrer dans le point de vue surnaturel? Mais je vous dis, moi, une chose toute simple. Pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas le symbole de Saint Athanase? Que vous l'apprendriez par cœur, qui est enfantin à apprendre par cœur, n'est-ce pas? Parce que vous avez vu comme c'est facile. Hein? C'est l'enfance de l'art d'apprendre. En 5 minutes, on apprend par cœur. Vous l'apprenez par cœur et vous le dites avec toute la puissance de Saint Athanase. Et je vous affirme que, après avoir dit ça, avec toute la force d'une foi surnaturelle et ardente, vous arrachant à toute votre manière de croire bêtement à votre niveau à vous. Eh bien, une fois que vous avez du symbole Saint Athanase avec cette puissance qui convient, vous êtes dans la foi surnaturelle. Je vous affirme que l'Esprit Saint est là. Et vous pouvez rester dans l'intimité avec Jésus, avec l'Esprit Saint, autant que vous voulez. Mais pour rentrer dans l'oraison, on ne fait pas comme ça. Allez, tac, c'est l'oraison. Allez, une demi-heure. Bouse de vache. Oh. C'est pas comme ça. Oh, l'odeur de sacré. C'est l'odeur de la bouse, oui. Il faut faire des actes de foi. Bon sang, Seigneur Tout-Puissant. Sans préciser notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire des actes de foi. Et là, regardez, on va s'aider de l'acte de foi des saints. Saint Athanase, qui quand même, à lui tout seul, a écrasé deux ou trois hérésies. Tout à fait extraordinaire. N'est-ce pas? Par la foi. Alors, eh bien, en plus, c'est des choses qui sont très très fortes. Parce que quand je le dis, je dois le vivre. C'est ça la foi. Quand je le dis, des paroles doivent exprimer, je dois vivre, exprimer, je dois exprimer ce que ces paroles signifient. Vous voyez? Le Père est incréé. Non mais rien que là, tu restes au moins 2 heures, suspendu. Le Fils est incréé. L'Esprit Saint est incréé. Et pourtant, ils ne sont pas 3 incréés, mais un seul. Mais moi, rien que ça, si tu le dis avec un acte de foi très fort, en réalisant en toi ce que ces paroles signifient, je te jure que tu rentres dans la foi théologale et que tu passes de la foi humaine en disant « Ouais, finalement, moi, je suis d'accord de croire, je trouve que ça nous apportera bien beaucoup, etc. » Mais ça, c'est de la bibine pour les chats, de penser comme ça. C'est pas inexact, mais c'est de la bibine pour les chats. Il faut vivre sur le plan surnaturel. Et à ce moment-là, permettre à l'Esprit Saint, ah, ça y est, de faire que la sainteté du Père, la sainteté du Fils, la sainteté du Saint-Esprit puisse pénétrer dans ma chair. Éternel est le Père, éternel est le Fils, éternel est le Saint-Esprit. Et pourtant, ils ne sont pas 3 éternels, mais un seul éternel. Et si j'apprends par cœur un truc comme ça, vous voyez comme c'est simple. Eh bien, ouais, il me semble qu'il y a quelque chose de très puissant qui peut se faire. Dans mon oraison, à ce moment-là, j'ai démarré mon oraison sur le plan d'une foi surnaturelle et théologale, et je peux continuer, l'Esprit Saint, Esprit d'intelligence, peut donc prendre le relais. Et je fais à ce moment-là l'expérience de l'Esprit d'intelligence, parce que je vois ce que ça signifie que le Père est incréé, ainsi que le Fils, ainsi que le Saint-Esprit, et pourtant qu'il y a un seul incréé, non pas 3. Et je le vois... J'en fais l'expérience, n'est-ce pas? Ouais. Oui, Gilles.
Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'on entend dans le texte pour celui-là, par la foi?
C'est le credo.
Par la foi catholique.
La foi catholique, il vient de te l'expliquer en te la résumant toutes ces affirmations.
Oui, vous pouvez la préciser.
Quiconque veut être sauvé doit avant toute chose embrasser et étreindre la foi catholique. L'étreindre, la tenir. Hein. La tenir. Hein. Et la tenir bon. Hein. La foi catholique. La foi catholique, c'est la foi reçue des apôtres. C'est la foi reçue des apôtres. C'est ça, la foi catholique. Et toutes les expressions de la foi qui se sont séparées de la foi apôtrique, données directement par les apôtres et conservées fidèlement par le magistère infaillible du corps mystique du Christ, eh bien, n'est plus une foi catholique. Alors, une foi chrétienne, c'est une foi chrétienne partielle, c'est une foi chrétienne qui proteste. Mais dans la foi, on ne proteste pas, dans la foi, on adhère. Dans la foi, on rentre dans la foi. Si, moi, une proposition de la foi m'est donnée par les apôtres, je ne proteste pas contre ça en acceptant ça parce que ça m'arrange. Non, non, j'adhère, je rentre dedans. Parce que c'est Dieu qui est l'origine de la foi. Et Dieu ne peut pas s'enlever. Et Dieu ne peut pas s'enlever. Il nous l'a enseigné par son Église. Christ l'a enseigné à ses apôtres. Il n'a pas pu se tromper, ni nous tromper, ni nous tromper. Et il a promis que cette vérité enseignée par les apôtres ne serait jamais altérée jusqu'à la fin du monde. Et qu'il n'y aurait jamais aucune trace d'erreur dans la foi catholique et apostolique. Parce que cette affirmation et cette révélation vient de lui. Il l'a expliqué aux apôtres et il leur a donné une trace de mémoire de cet enseignement qui sort de sa bouche. Et c'est la seule promesse qu'il a faite à l'Église, c'est celle-ci. C'est du côté de l'infaillibilité de la foi apostolique. C'est pour ça que saint Athanase, c'était au début du christianisme. Et tu vois, je te le dis aujourd'hui, j'ai rien changé.
Vous avez 50 ans, avant ça
peut être. Ouais, donc c'est 6e siècle. Hein?
En 295.
Oh, oui, 4e siècle, 3e siècle, 3e, 4e siècle. 4e siècle. Ah, vous voyez, je lui ai donné 200 ans de trop alors. Je lui ai donné 200 ans de trop. Je crois que c'est bien de temps en temps qu'on se rappelle ces textes tout à fait fondamentaux. Et souvent, on cherche des prières pieuses, etc. Les prières les plus puissantes sont les prières de la foi, les saints, n'est-ce pas? Alors, le symbole des apôtres, retenez bien, symbole de saint Athanase. Si quelqu'un ne sait pas faire oraison et dit « moi, je n'y arrive pas », à chaque fois j'ai des distractions, vous êtes prié d'apprendre par cœur ça. Et comme ça, votre heure d'oraison quotidienne sera une heure. Parce que vous aurez travaillé une demi-heure à apprendre ça par cœur, vous allez gagner comme ça une heure par jour de divinisation absolue. Au lieu que vous ne l'aurez pas appris par cœur, vous continuerez à faire oraison, vous allez ramer telle la galère. Et quand vous allez attaquer la falaise, vous n'allez même pas voir qu'il y a une falaise, vous allez briser un radeau sur la falaise et vous allez couler.
Vous avez explicité le symbole de Nicée, c'était vers 323,
Nicée, non? Ah bon, tu veux le symbole de Nicée aussi?
Non, mais il a dû l'expliciter, là, le symbole de Nicée.
Ah ben bien sûr, il doit y avoir plein de symboles là-dedans. Oui, oui, oui. Ben, celui qu'on dit, et puis il y a celui qu'on dit au Nicée Constantin, celui qu'on dit à la messe. Oui, oui.
Pour rentrer dans la raison.
L'oraison
commence par la mort à soi-même. Tu dois pas rentrer à toi-même et mourir totalement. C'est dans la plus grande qu'on rentre dans l'oraison et pour ça, il faut tuer tout ce qui vient de toi. Tu dois être crucifié totalement, anéanti, et il ne doit plus rien rester de toi, uniquement la foi que le Christ enseigne et la vision qu'il a sur le Père, sur l'Esprit Saint, sur l'Église, sur le monde et sur la finalité de tout ce qui existe. Hein? Moi, la meilleure celle-là. Il faut être baptisé. On commence l'oraison par la mort à soi-même, dans la plus grande pauvreté. Et du coup, dans la grande pauvreté, par la grâce que l'Immaculé nous donne, eh bien, on rentre dans l'acte de foi et on fait cet acte de foi et on touche Jésus, on se sent pénétré par Jésus, on rentre à l'intérieur de Jésus, il n'y a plus que Jésus qui voit les choses, plus moi qui les vois.
Et du coup, je les vois tels qu'il les voit, et c'est pourquoi je prononce l'acte de foi. Et je vis les choses, et je vois les choses comme lui, il les voit. Et il faut que je le voie. Ça ne doit pas être des mots. Oui.
Je ne sais pas si ça concerne le thème d'aujourd'hui. Par rapport à la foi et au baptême.
Oui.
Je crois que c'est peut-être pas clair dans l'esprit de tout le monde, c'est pour ça que je pose la question.
Oui.
Il y a beaucoup de conflits et avec les traditionalistes, enfin, les intégristes, et avec les protestants, et avec les gens d'autres confessions sur ce point-là.
Oui.
Moi j'ai lu que ce qui sauvait, il y en a qui disent que ce qui sauve, c'est la foi.
Oui, c'est la foi que
ce qui sauve, c'est la foi et le baptême.
Oui.
Est-ce que vous pourriez expliquer,
quiconque veut être.
Il peut y avoir une foi implicite, est-ce qu'il peut y avoir un baptême, entre guillemets, implicite? Est-ce que, par exemple, si on dit qu'un bouddhiste peut être sauvé, hein,
oui.
Si on dit qu'un un non-baptisé peut avoir accès à la vie, d'avoir accès à la vision béatifique,
si vous êtes d'accord. Oui, sauvé, c'est pas être éprouvé pour l'éternité, oui.
Non, mais sauvé, c'est ou entrer au purgatoire, ou entrer au ciel.
Oui.
D'accord.
Oui.
Donc, c'est dans le coup de temps, on est prédestiné, enfin...
On est tous prédestinés.
On est tous prédestinés au ciel, mais par libre choix, on peut... Par libre choix, on peut choisir de refuser d'être sauvé. Être sauvé, c'est entrer un jour ou l'autre dans la vie.
Oui, tout à fait.
Donc, je voudrais savoir comment, si ce n'est par la foi ou par le baptême, un non-baptisé, entre guillemets, ou un non, quelqu'un qui n'exprime pas la foi catholique, peut entrer au ciel, et de quelle façon? Si vous pouvez nous expliquer ça de manière simple, je pense que c'est
à votre avis, Geneviève, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce qui sauve? C'est la foi qui sauve? Là. Je crois que l'écriture. Enfin, je crois. Ce que je viens de dire dans le tout à l'heure, je te redis, tu vas voir. Quiconque veut être sauvé doit avant toute chose embrasser et tenir la foi catholique. Bon, prends l'écriture. Tu vois, il ne parle pas de. Quand tu vois l'écriture, c'est la foi qui justifie. On a été justifié par la foi. Tu vois, c'est la foi qui justifie. La justification, c'est-à-dire le fait que tu es ajusté, tu es justification fait juste. Hein, donc, tu es ajusté par un phénomène qui vient du bon Dieu, hein, certainement. Hein, tu es ajusté à ta finalité éternelle, la vision béatifique. C'est la foi qui fait ça. C'est la foi qui te réajuste par rapport à ta finalité éternelle. C'est un réajustement divin. Opéré par Dieu, parce qu'il y a eu un désajustement par le péché originel. Alors, c'est la foi qui justifie toujours. C'est pas le baptême. Bon. Le baptême ne justifie que parce qu'il est reçu en fonction de la foi. Ça va? Ta foi t'a sauvé. Combien de fois il dit ta foi t'a sauvé? Bon. Alors maintenant, quelqu'un, tu vas me dire, qui n'a pas la foi catholique explicite. Prends par exemple un bon musulman, un bon truc qui aime Dieu vraiment, tu vois. Bon, et bien un bon musulman, ou quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la foi catholique, Saint-Athanas, il n'a jamais entendu parler. De part au fond de lui, il a comme instinctivement, par cause de sa droiture, parce qu'il est juste, tu vois, justifié, juste. Il est ajusté à quelque chose qui, en lui, une espèce de loi intérieure, qu'on appelle la loi éternelle, c'est ce que nous avions vu d'ailleurs en faisant l'éthique il y a 2 ans, en détail, on a passé une heure à regarder ça. Il y a une loi éternelle qui lui est donnée surtout vers l'âge de 5, 6, 7 ans, notamment, d'une manière très très forte, très sensible, qui lui est donnée. Et il obéit à cette loi éternelle, à cette loi d'amour qui touche un point de vue d'éternité. Et il obéit. C'est ce qu'on appelle quelquefois la loi de la conscience, mais c'est délicat, parce que quelquefois, c'est pas tout à fait ça la loi de la conscience. Ça rentre dans les mécanismes de la loi de la conscience, c'est pas tout à fait la même chose, la loi éternelle. Enfin, donc, peu importe. Quelqu'un qui est là, il obéit quand même à quelqu'un d'autre, même, mais qu'il pressent, donc il entend le mouvement, la motion, dans sa vie intérieure, dans sa vie concrète. Il obéit à ce qui, pour lui, est quelque chose qui à quoi il doit obéir, donc quelque chose qui est au-dessus de lui. Et qui pourtant est en lui en même temps. Et en faisant ça, c'est une foi implicite, puisqu'il croit donc qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui qui est son maître, qui est son seigneur, qui le transcende, et deuxièmement, qui s'occupe de lui, qui lui donne les indications, et il épouse cette providence. Donc il croit en même temps et à l'existence de Dieu, par ses actes, et à sa providence. Puisqu'il croit à l'existence de Dieu, il croit que Dieu est, et il croit ce qu'il est, sans savoir. Or il est 3 et 1 en 3. Et il croit à sa providence, donc il croit qu'il est proche de nous, qu'il emprunte son langage propre, et donc qu'il est tout proche par le mystère, donc au fond, il croit implicitement, sans savoir, l'incarnation du Christ, et c'est du Christ ce qui lui permet d'épouser cette providence divine. Donc quelque part, il a la foi. Et donc, c'est une foi surnaturelle, et cette foi le justifie. Mais, or, tous reçoivent largement la grâce de la foi, que ce soit explicite ou implicite. Quelle qu'il soit.
Tous les hommes.
Tous les hommes, sans exception. La foi qui va sauver, c'est l'obéissance de la foi. C'est que cette foi soit vive, qu'elle soit incarnée, que tu obéisses. C'est-à-dire, je répète du coup, oui, quiconque veut être sauvé doit avant toute chose embrasser, tenir cette foi. C'est-à-dire l'étreindre de manière que... Il faut vraiment. Et c'est la foi qui justifie. Et cette foi, elle est alimentée par qui? Elle est alimentée dans le temps, dans notre temps, dans le cœur de tous les hommes, grâce au mystère, donc du corps mystique de l'Église, qui réalimente la grâce quotidiennement sur la surface de la terre, dans notre temps, dans tous les lieux, par le sacrifice eucharistique, qui, lui, vient baptiser tous les instants, tous les lieux, tous les temps et tous les hommes. Et par la grâce des autres sacrements, confession, baptême, etc. Par le baptême, tu as d'un seul coup, tu deviens la matrice où peuvent venir se plonger, autant que Dieu permettra, tous les hommes de ce monde qui n'ont pas reçu le baptême. Par le baptême, tu deviens la mère de Dieu. Tu deviens la mère divine. Et ouais. Et ça, et c'est le fait que Jésus est instauré les sacrements, il te donne à toi le sacrement, toi qui es une personne, et du coup, comme ce sacrement est catholique, il est pour tous les autres. Absolument. Et on ne reçoit pas le baptême pour soi, on reçoit le baptême pour que les autres puissent être plongés dans la grâce du baptême.
Ouais. Il faut donc retrouver son regard intérieur.
Le regard intérieur perdu au moment de notre premier instant de vie dans le sein maternel a quelque chose de semblable avec ce qui s'était passé dans l'état de grâce originel au niveau du premier homme et de la première femme. Quelque chose de semblable. Et pourtant quelque chose de très très différent en même temps. Je crois que le stade de notre expérience première dans la période embryonnaire, au moment où Dieu nous a créés, n'est pas un statut où nous sommes créés dans la grâce. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons une impression d'éternité. La vie divine imprime notre vie humaine. Nous avons un phénomène de ravissement de l'âme à l'intérieur d'un corps qui l'assume substantiellement. Mais il n'y a pas de grâce. Tandis que dans le péché originel, je veux dire dans la création du premier homme et de la première femme, ils étaient créés dans la vie surnaturelle. Et c'est précisément ce que le péché originel interdit à notre expérience, c'est d'avoir l'expérience d'une grâce intégrale. Ça va? Oui.
J'ai appris en Israël à mes racines là-dessus. On me l'a dit, pour montrer, ça m'a frappé énormément, alors on va Pourquoi
je
devrais
expliquer à l'aide? Est-ce que vous connaissez?
Vous connaissez les...
Mais dites-y, c'est merveilleux. Alors pourquoi vous venez là-haut, là-haut? Parce que quand on est né, il y a un ange qui... Le livre de vie, tu vois dans la lumière de Dieu comment Dieu te voit. Or, Dieu te voit à partir de ta cause finale. C'est-à-dire ton aboutissement dans l'éternité glorieuse. Et il te crée avec ça. Et tu vois ça. Tu dis oui à ça. Et effectivement, tout de suite après, après cette espèce de vision, de connaissance, plutôt qu'une vision, parce que ton intelligence n'y est pas, quelque part, corporellement parlant, ton cœur n'y est pas, donc ce n'est pas une expérience vraiment d'amour, mais c'est vraiment une mémoire qui te marque. Tu es marqué dans toute ta mémoire corporelle par ça. Et tu sais que c'est ça, toi. Ce que tu as vu, comme Dieu t'a créé à partir de la cause finale, cette sainteté finale qui est là, ce que tu es le seul à avoir. Et c'est toi, dans ce domaine de cette sainteté-là, qui est la plus grande sainteté de tout, de toute la création. Et tu as dit oui à ça, forcément, un peu tard, c'est normal. Mais, quelque part, effectivement, l'ange, qui, il faut faire ce parallèle entre cet ange-là, et l'ange qui interdit à Adam et Ève de revenir au paradis terrestre, qui est le chérubin avec ce fameux clair. Alors donc, il y a effectivement la petite marque ici. C'est comme ça que les juifs donc, disent en effet, chut, oublie tout, et maintenant, vas-y, fais-le en obéissant par la foi à ce que Dieu te demande, pour pouvoir le faire par l'amour, c'est-à-dire sans foi.
Ce que vous avez dit correspond bien avec la tradition juive.
Ouais.
Tout ce que vous aviez dit correspond exactement, c'est
comme ça. Ah ben, j'étais enchanté.
J'étais
enchanté, vraiment, c'est... Non, mais c'est sûr, hein. Il y a quand même donc une différence, tu vois. C'est que Adam et Ève avaient la possibilité, en pleine lucidité, en pleine conscience, en pleine volonté, d'être parfaits dès le départ, et d'être de plus en plus parfaits. Tandis que nous n'avons pas cette... En raison de la grâce sanctifiante qui était la leur, et qui faisait qu'ils avaient une relation physique mais permanente et lucide et continuelle avec toutes les plantes, tous les animaux et tous les... Et même une relation, j'allais dire, presque consciente, il suffisait simplement qu'ils y appliquent leur attention, à tous leurs successeurs, à toi par exemple et à moi. C'est pour ça que aucun d'entre nous n'a été absent du péché originel quelque part. À cause... Nous n'avons pas ça. Nous n'avons jamais connu ça. Par contre, nous avons connu l'acte créateur de Dieu, et quand l'acte créateur de Dieu, qui continue à être présent en ce moment, du point de vue métaphysique, était présent non seulement sur le point de vue métaphysique, mais sur le point de vue vital, puisqu'il nous a communiqué la vie, et au moment de cette communication de la vie, il y avait une pureté, une innocence divine parfaite, mais pourtant pas de grâce, à cause du péché originel, parce que c'était reçu dans un corps, reçu d'Adam. Ça va ? Et pourtant, c'est une expérience de vie éternelle ou d'éternité divine, brûlante, expérimentée, brûlant notre corps. Ça marque ça, toute notre... C'est ce qu'on appelle, nous, la mémoire ontologique. Ce que saint Augustin appelle la mémoire de Dieu. Et ça marque toutes les cellules de notre corps et se reproduit par la fameuse mémoire génétique, brûlée surnaturellement par cette impression-là. Voilà. Et ça c'est, tu vois, il y a quand même une différence de nature entre les deux.
Hein? Et la Vierge,
elle
a été créée au
stade
de...
La Vierge, très bonne question. La Vierge, oh, que c'est une... Oui. Bon. Alors, l'Immaculée Conception, c'est vrai que ça, c'est une question très très belle, hein. Trois modes, hein, différents. Hein. De l'acte créateur de Dieu. L'acte créateur de Dieu a constitué le premier homme et la première femme dans un état de grâce divine, originelle. Cette grâce divine originelle fait que la vision, l'impression du Messie qui est déjà là avant la création du premier homme et de la première femme, hein, l'impression du Messie, vient imbiber, il y a une onction messianique, une très grande onction, qui vient imbiber l'intelligence, le cœur, la mémoire aussi, le corps d'Ève. Elle est dans la grâce originelle. Elle est comme, créée comme ça, par nature et par surnature. Autrement dit, sa nature humaine n'est pas seule. La nature humaine d'Ève, à partir du moment où elle est créée par Dieu, elle n'est pas seule. Elle est pas, il n'y a pas que la nature humaine. Il y a aussi une présence vivante, messianique, surnaturelle, dans son sensibilité, dans son imagination, dans son psychique, dans son spirituel, dans son cœur, dans sa volonté, dans son intelligence et tout. N'est-ce pas? Dans ses sens du toucher. Donc, elle est à la fois femme et puis divinisée en même temps, avec une sensibilité divine. Si, avec Adam, elle actue parfaitement cette grâce, eh bien, leur corps est dans un état de transfiguration, vous le savez. La transfiguration, c'est pour nous montrer l'état dans lequel se trouvent l'homme et la femme, dans la vision de la sagesse créatrice de Dieu. Dieu n'a jamais voulu la mort ni le mal. Normalement, on est des êtres, Dieu a voulu que l'homme et la femme et l'enfant soient tous des êtres transfigurés, où la divinité prend possession de leur corps, de leur âme, de leur esprit, de manière telle que l'agilité, la subtilité, l'impassibilité prennent possession victorieusement de tout, de tout leur être, de tous leurs actes, de toute leur vision. De sorte que quand ils sont ensemble, c'est assez extraordinaire, hein, il est possible de réaliser l'unité des deux dans une humanité intégrale qui n'est ni homme ni femme. C'est pourquoi je vois deux personnes et en réalité j'ai trois substances dans la grâce originelle. Ça, nous avons vu ça longuement en regardant la spontanéité. Hein. Bon. Vous sentez bien que nous, avec la rupture du péché originel, nous sommes créés donc la femme, parce qu'on va prendre des femmes ici, la femme, elle est créée avec la cellule du péché originel, dans une innocence divine. Alors, la divinité qui va rester, si je puis dire, c'est ce qu'on appelle l'image et ressemblance de Dieu. Elle va être créée à l'image et à la ressemblance. Mais cette ressemblance ne va pas être dynamisée par la sensibilité, entre guillemets, messianique et l'onction messianique dans son corps, son âme, sa psyché, son esprit, ses sens externes, etc. Le péché originel empêche cette vivification divine parfaite. Ça va? Et voilà, nous sommes créés donc, nous, avec le péché originel comme ça. Le péché originel est venu s'introduire ici. Ok? Donc il y a l'image de la ressemblance de Dieu, mais la vivification est brisée par le point de vue de la mort. La mort a pénétré dans l'image de la ressemblance de Dieu, mais c'est une mort par rapport à la grâce divine originelle et l'onction messianique victorieuse de tout notre corps, de toutes nos puissances. Ça va? Et Marie, deuxième Ève.
Pardon, c'est pas la mort physique,
hein? Non. Ah oui, mais si. Ici, c'est la mort d'abord de la divine grâce, c'est-à-dire de l'intention de sagesse créatrice de Dieu sur l'homme et la femme. Et du coup, l'amour. Du coup, vous constatez ici que maintenant, il y a deux personnes, mais il n'y a pas trois substances entre l'homme et la femme. Là, il y avait bien deux personnes, mais trois substances. Il y a trois substances, puisqu'il pouvait, en s'aimant, en se regardant, en se voyant, en se connaissant, en se donnant, en s'accueillant l'un à l'autre, il n'y avait plus ni homme ni femme, donc il y avait deux, il n'y avait plus ni homme ni femme, mais il y avait l'humanité intégrale. L'homme et la femme disparaissaient, il y avait une humanité intégrale, ni homme ni femme, l'unité des deux. Tandis qu'avec là, ici, l'amour ne peut pas aller jusqu'à la substance, j'ai encore deux. Il y a cet appel à l'unité des deux, il y a cet appel hein, à l'unité des deux, mais il ne se réalise pas. Donc l'amour impliquant la mort de la substance de l'humanité intégrale, la mort doit pénétrer dans la vie de chacun des deux. Comme un rappel à un amour qui doit dépasser le point de vue de la mort, dépasser le point de vue de la vie de chacun des deux, pour qu'il y ait la réalisation de l'unité intégrale. Et ceci ne va plus être possible qu'avec la venue du Messie dans la chair. Le salut. le Verbe de Dieu incarné, va pouvoir nous restituer et nous permettre de revivre ça, mais ça sera au-delà de cette mort et ce sera donc dans le paradis céleste, avec notre corps. Et ce sera sous un autre mode que le mode du paradis terrestre, hein, qui est un mode de transfiguration, ici ce sera un mode de glorification totalement différent. Comme mode. Parce que la transfiguration reste dans le lieu, tandis que la glorification est dans l'omniprésence, et physiquement présent aussi, tout en respectant le statut physique du corps. Bon, alors, la deuxième Ève, elle, c'est Marie. Elle n'est pas du tout créée comme la première Ève, puisque elle descend de Anne et Joachim, et donc elle descend d'une humanité qui est dans la passivité et qui a besoin d'être sauvée. Elle est la fille d'Anne et Joachim. Ça va? Et donc Anne et Joachim apportent l'héritage à travers le corps du péché originel. Et pourtant, elle n'en héritera pas, comme nous. Pourquoi? Parce que par un effet qui vient de l'éternité glorieuse, par un effet de la miséricorde prévenante d'amour de Dieu, du Père, qui vient de l'éternité, hein, donc j'ai exprimé ici comme ça le point de vue de l'éternité, n'est-ce pas? Donc le Père fait rentrer, par la blessure du cœur du Christ ouvert sur la croix, fait rentrer, laquelle est plongée dans l'éternité, fait rentrer donc un effet de grâce, de rédemption dans la conjonction zygotique qui permet l'advenue de la zygote, n'est-ce pas, de la deuxième ère, et qui vient pénétrer cette union au moment où l'ovule est fécondé. Elle est immédiatement bétonnée par le cœur eucharistique du Christ, l'eau, le sang, l'Esprit Saint, qui viennent recréer cette constitution zygotique, et donc elle est sauvée par le Christ. Marie est sauvée par le Christ tout entière, et elle n'a pas une grâce divine originelle, mais elle a une grâce, elle est une plénitude de grâce, rédemptrice, n'est-ce pas? Elle est sauvée par le Christ. Et c'est le Christ quand on dit que c'est la preuve que Christ, dans son corps mort, est Dieu et créateur. L'Immaculée Conception, c'est la preuve, quelque part, le seul signe sensible, si je puis dire, que sur la croix, Jésus, dans son corps mort, est le Dieu créateur de la femme et de la souche de toute l'humanité, qui doit être récapitulé dans la gloire de la résurrection. Et effectivement, Dieu crée Dieu le Fils avec Dieu le Père et l'Esprit Saint, c'est pour ça qu'il y a l'eau, le sang et l'Esprit Saint, recrée l'être de Marie sans supprimer le point de vue qu'il y a les séquelles du péché originel, etc., mais en bétonnant ces séquelles du péché originel et en remplissant à la place de la séquelle, des séquelles du péché originel, en remplaçant ce qui correspond à l'abîme que met le péché originel, en le remplaçant par une plénitude de grâce. Et c'est ça l'Immaculée Conception. C'est qu'elle n'est pas atteinte par le péché originel, c'est la plénitude de grâce qui remplace. Tandis que, ici, chez Ève, il n'y a pas une plénitude de grâce qui remplace la béance du péché originel puisqu'il n'y avait pas de péché originel. Vous voyez bien? Et donc, elle est sans le péché originel, mais par une miséricorde prévenante. Donc, Marie, elle, ça n'a rien à voir. Quand on dit que Marie est immaculée conception, il faut toujours se rappeler que ça ne veut pas du tout dire que Dieu a dit « Oh, bon, je fais une exception. Bon, il y avait bien eu Ève, on va donner une deuxième chance à l'humanité, on va créer une deuxième Ève, comme Ève, avec une grâce divine originelle, comme ça. On va voir ce que ça va donner. Il y en a une qui a échoué, peut-être que la deuxième, elle va réussir. C'est faux, ça n'a rien à voir, ça. C'est hérétique de dire ça. Elle est créée dans un corps passible, et la béance du péché originel n'est jamais là parce que dès le premier instant, c'est remplacé par la plénitude de grâce. Et elle est sauvée par le Christ. Tandis que Ève n'avait pas besoin d'être sauvée, il n'y avait pas de péché. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée. aucun besoin d'être sauvé, d'aucun péché, il n'y avait aucun péché. Parce que l'Immaculée Conception, c'est la recréation du Rédempteur crucifié qui constitue une plénitude de grâce et de gloire pour une seule créature. Et cette unique créature reçoit suffisamment de grâce pour que nous soyons tous emportés au ciel uniquement par la seule grâce de la Vierge Marie. Et c'est elle qui garde fidèlement ce que dit saint Athanase. C'est la seule qui garde la foi de manière fidèle, immaculée et intégrale. Et c'est donc par sa foi que tous sont sauvés. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui tient la foi, qui l'étreint de manière fidèle, totalement immaculée et jusqu'au bout, aucun n'est sauvé. Et par la foi d'un seul, tout le monde est sauvé. Bon. Elle aurait pu très bien ne pas tenir, bien sûr, puisqu'elle était tentée, étant donné qu'elle était la fille d'Adam et elle, fille de Anne et Joachim. Et donc, il y avait sans doute aussi une capacité à être tentée, une capacité à être affaiblie du point de vue des séquelles. Okay, il y avait une possibilité pour les séquelles d'être là, comme une tendance. Mais la plénitude de grâce lui permettait aussi, quelque part, d'être toujours attentive à repousser ça hein, et à revivre de la foi dans la nuit la plus obscure. Et parce que c'est dans la nuit la plus obscure de la croix que sa grâce d'Immaculée Conception s'est constituée, et donc elle a dû passer par la nuit la plus obscure d'une plénitude de grâce totale. Tandis que Ève et Adam, ils étaient dans la lumière, c'était la transfiguration, c'était planant. C'est pour ça que la vie chrétienne ne consiste pas à essayer de retourner au paradis terrestre, mais à passer par le mystère de Marie, de la nuit obscure, de la croix, pour vivre au-delà de cette vie terrestre, de la résurrection, de la béatitude et de notre prédestination à l'éternité glorieuse. Oui.
Comment le péché originel se transmet-il dans le corps?
Ah oui. Alors le.
Est-ce que c'est le plus grand des atavismes?
Alors, c'est pas défini par l'Église de Jésus. Comment? Ce qui est défini, c'est que le péché originel se communique par la voie de la génération.
D'accord.
La voie de la génération passe par le point de vue donc de la transmission génétique. Et c'est, les parents ne communiquent au départ, finalement, de gamète à gamète, qui ne constituent que qu'un phénomène biologique. Donc c'est par le véhicule de l'héritage biologique que se transmet le péché originel. À mon avis, probablement aussi par le véhicule d'un phénomène de fréquence métapsychique correspondant à l'espèce humaine tout entière. Mais ça, c'est par le corps, en tout cas. Oui, c'est par le corps qui se transmet.
C'est un atavisme, ou pas?
C'est un atavisme.
L'atavisme le plus radical de l'humanité, quoi.
Oui, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un atavisme. Hein? Un atavisme, c'est une part que j'hérite de quelqu'un qui est dans mes racines, père, mère, grand-père ou grand-mère, etc. Donc c'est une part. Le péché originel, est-ce que c'est une part? Le péché originel n'est pas une tare. Le péché originel, c'est un fait qui vient donc d'une. L'héritage du péché originel est un fait qui vient de ce fait que le premier homme et la première femme, au lieu de vivre de trois en un, de deux en un, en une troisième substance, ont voulu se séparer de Dieu pour vivre séparés l'un de l'autre quelque part dans une certaine autonomie. Mais quand ils ont vécu ça, ils ont vécu ça en lien avec toi. Un petit peu comme si le jour d'un mariage, comme je vous l'ai expliqué peut-être à quelques-uns une fois ou l'autre, un petit peu comme si le jour sacré du mariage, au moment où tu es là et où le prêtre te fait comme ça, désormais vous êtes unis par le sacrement de mariage, un petit peu comme si ce jour-là, le jour de ton mariage, le bon Dieu te faisait voir à l'avance tout ce qui allait sortir de ton sein. Chaque petit enfant. Vous savez que c'est des grâces quelquefois qu'on peut avoir en l'espace d'une centaine de secondes de voir chacun réellement complètement, absolument, personnellement. C'était quelque chose, ce lien qui avait, vous voyez, vous imaginez ça, quelques-uns ont cette grâce quelquefois, n'est-ce pas? que pas ici, pas tout le monde, mais... Bon. Pour Adam et Ève, oui, il y avait une connaissance infuse, mais une rencontre personnelle vis-à-vis de tout ce qui allait sortir de son sein. Et en même temps, du coup, quelque part, nous avons participé, nous étions là, et je pense que cette connaissance qu'il avait, c'était une connaissance aussi de notre liberté personnelle, laquelle s'est mise un petit peu, quant à elle, un petit peu aussi en dehors et dans l'orgueil ou la révolte. Hein. Donc quelque part, nous avons commis le péché originel avec lui. Voilà l'origine, à mon avis, de l'universalité du péché originel. Elle relève de la grâce divine originelle, laquelle porte une science infuse de connaissance de toute l'humanité par Adam et Ève. Ça va ? Mais ça, c'est divin, ça. C'est une vision divine qui prend le corps d'Adam et Ève. Nous, on n'a pas eu l'expérience de ça. Néanmoins, nous avons quand même eu un rôle. C'est pourquoi la culpabilité est marquée dans notre âme. C'est normal.
Par le biais de
ses fréquences. Non, par le biais de cette solidarité que nous avons eue avec lui au moment où il a commis le péché originel.
Transmis par le corps.
Non, c'est très normal. Justement, c'est ce que je te dis. C'est à travers la grâce divine originelle, une science infuse, mais laquelle est portée par son corps. C'est pour ça que la relation qu'il a est physique vis-à-vis de nous. C'est-à-dire sensible, si tu préfères. Hein? Bon. Voilà. Mais ça va être transmis. La génération va transmettre précisément cette absence de grâce divine originelle à Caïn, à Abel, etc. Cette absence de grâce originelle, tu la constates. Tu ne peux pas en état de transfiguration d'un seul coup comme ça quand tu veux.
Donc cette grâce originelle est au corps.
La grâce originelle est liée à la personne. La grâce originelle vient du centre de l'âme, elle vient de la partie spirituelle de l'âme qui est la détermination principale du corps. Parce que le corps à ce moment-là est un corps spirituel.
Mais d'accord.
C'est pas un corps physique comme nous, le corps récepteur de...
Mais vous avez l'air de dire que s'il n'y avait pas le péché originel, cette grâce originelle serait transmise de génération en génération.
Mais évidemment.
Mais par quel biais?
La belle blague. Eh bien, par le biais de...
L'âme.
Mais par le biais de la génération. C'est-à-dire l'image et la ressemblance de Dieu aurait été vivifiée par la grâce messianique et il n'y aurait pas eu besoin d'incarnation du Messie. Il n'y aurait pas eu besoin d'incarnation du Verbe de Dieu parce que nous aurons tous ensemble vécu donc de la grâce du Messie. Et l'heure du jugement dernier aurait sonné notre entrée dans la glorification, puis c'est tout. Il n'y aurait pas eu l'incarnation. Le Christ s'est incarné, le Verbe de Dieu s'est incarné uniquement pour nous sauver de cet héritage du péché originel. Bon. C'est du catéchisme, ça, hein? Je m'excuse, mais c'est un catéchisme de base, ça, que je vous raconte là. Bon. Si vous voulez, on va souffler, et puis du coup, on va continuer tout à l'heure. Brièvement pour regarder le baptême et la confirmation et ensuite très très vite tous les autres sacrements en comparaison.